Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Les membres électeurs du Sacré Collège se préparent à entrer en conclave mardi prochain pour choisir le successeur de Benoît XVI. Les chantiers s'annoncent colossaux pour l'Église. Sécularisation massive, confrontation à la modernité et à un relativisme souvent hostile, questions bioéthiques et morales, fondamentalisme religieux. La prière reste la première arme et le premier moyen pour faire avancer les choses. Nous allons en parler dans ce magazine. La date du prochain conclave a donc été fixée au mardi 12 mars. La décision a été prise par la 8e Congrégation Générale du Collège des Cardinaux, réunie vendredi après-midi. Dans la matinée de mardi, dans la basilique Saint-Pierre, sera célébrée la messe Pro Eligendo Pontifice. Et dans l'après-midi, les cardinaux feront leur entrée en conclave. Les 115 cardinaux électeurs présents à Rome au grand complet préparent donc l'élection du successeur de Benoît XVI. Ils poursuivront samedi matin leur congrégation générale auquel participent également les non-électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont dépassé la limite d'âge de 80 ans. Des congrégations qui servent à bien préparer l'agenda du futur pape. Depuis le début de la semaine, plusieurs cardinaux ont pris la parole pendant les congrégations. Des thèmes reviennent régulièrement sur la table. Le directeur du bureau de presse en a parlé ce vendredi à la mi-journée. Le compte-rendu de Bernard de Cotigny.
Aucun nom de papabilé n'est mis en avant durant ces congrégations, a tenu une fois de plus à rappeler le père Lombardi, mais on fait le point sur la situation de l'Église et il est évident, tenait-il à préciser, que c'est en dehors de ces réunions de l'ensemble des cardinaux que l'on discute plus précisément de tel ou tel profil. Rien de plus normal, c'est même essentiel. Les thèmes abordés ce vendredi matin, le père Lombardi a souligné qu'en ce 8 mars, le thème de la place de la femme dans l'Église s'est imposé, avec aussi des échanges sur le dialogue interreligieux, la bioéthique et même la miséricorde. Un journaliste qui lui demandait si le thème de la collégialité était le sujet le plus mis en avant depuis le début des congrégations générales, le père Lombardi répondait qu'il n'en avait pas tenu le compte exact, mais que certainement ce thème entrait de fait dans de nombreuses problématiques du fonctionnement même de l'Église. Une manière de confirmer que l'on semble réfléchir en effet beaucoup sur les relations entre les églises locales d'une part et Rome, la Curie, les congrégations et les conseils pontificaux de l'autre. De très nombreuses questions sont venues ensuite des journalistes sur la logistique qui entoure le conclave. Ainsi, la cheminée des deux poêles qui serviront à brûler les bulletins de vote et à envoyer les fumigènes, noirs ou blancs, devait être installée ce vendredi. Des précisions ont été données aussi à nouveau sur les mesures de sécurité qui vont entourer le conclave, notamment le parcours qu'emprunteront les cardinaux entre la maison Sainte-Marthe où ils logeront et la chapelle Sixtine. Certains cardinaux voudraient pouvoir le faire à pied et non en bus, histoire de pouvoir prendre l'air et se rafraîchir les idées.
Dès l'entrée en conclave, les cardinaux électeurs logeront à la maison Sainte-Marthe à l'intérieur de la cité du Vatican, une résidence réalisée sous le pontificat de Jean-Paul II à l'emplacement d'un vieil hospice pour pèlerins. Construit pour accueillir les malades, cet hospice a abrité pendant la Seconde Guerre mondiale les délégations diplomatiques des pays en guerre avec l'Italie. Des opposants au régime fasciste, des résistants ou des juifs persécutés y ont également trouvé refuge. L'édifice moderne sert en temps normal à loger des prélats de la Curie ou des évêques de passage pour des réunions de travail au Vatican. Pour préparer le conclave, la chapelle Sixtine a été fermée le 5 mars. C'est le cardinal protodiacre Jean-Louis Torrent qui prononcera la célèbre formule Habemus Papam et qui dévoilera le nom du nouveau pape. Ce dernier apparaîtra alors au balcon pour la bénédiction Urbi et Orbi. Dans l'attente de l'entrée en conclave, la journée de dimanche sera consacrée à la prière. Et à propos de la prière, justement, le père Federico Lombardi a évoqué au cours de son point de presse le succès remporté par le site Adopte un cardinal qui permet de prier pour un cardinal. L'Église se félicite du mouvement de prière constaté sur la toile. Le doyen des cardinaux exhorte les fidèles à prier pour l'ensemble du Sacré Collège. Rome, vous le savez, bouillonne. L'univers médiatique s'agite et spécule, mais l'Église universelle veille. Les cœurs et les esprits sont en prière, l'attente est grande. C'est en substance ce que nous dit le père Nicolas Butet, prêtre, modérateur de la fraternité Eucharistine et fondateur de l'Institut Philanthropos. « Je sens, dit-il, un besoin de prière énorme. On se rend bien compte que Benoît XVI a porté à bout de cœur, à bout de bras, à bout de force cette Église et ce combat spirituel de notre temps. Car l'enjeu, poursuit-il, est capital. Je vous propose de l'écouter. »
Un besoin de prière énorme. On se rend bien compte que Benoît XVI a porté à bout de cœur, à bout de bras, à bout de foi cette Église, avec bien sûr tous ses frères dans l'épiscopat et avec toute la communauté des croyants. Mais dans sa place particulière sur le siège de Pierre, il a quand même porté ce combat spirituel de notre temps. Et là, on se rend compte qu'il y a un enjeu capital. Les anciens distinguaient le temps comme chronos, la succession des années, et le kairos, le temps de la visite de Dieu. Nous sommes dans un kairos véritablement maintenant, et donc je crois que ce kairos a un enjeu qui dépasse infiniment toutes les stratégies qu'on pourrait lire ou voir, mais qui rejoint véritablement l'enjeu du salut du monde, et donc dans ce temps, je crois que quand il s'agit du salut du monde, c'est la prière qui est la première arme et le premier moyen pour faire avancer les choses.
L'Église se voit confrontée à de nombreux défis, tout d'abord dans sa relation au monde, mais surtout en son sein même. On pense évidemment aux récents scandales qui ont touché la Curie et l'Église d'une manière générale. Certains prônent un renouveau, une nécessité pour la Curie, notamment de se purifier. Vous qui avez travaillé au sein même de cette Curie, quel est votre sentiment par rapport à tout ça ?
Jacques Maritain avait eu cette phrase assez admirable. Il y a l'Église, sa personne qui est sainte et son personnel qui laisse à désirer. Je crois que véritablement la grande crise que traverse l'Église, et donc la Curie également, c'est une vision théologale, une vision d'en haut de l'Église et donc de la mission des gens de la Curie. La Curie a été réduite sans doute à une dimension administrative au service du pape. C'est clair que la force de la Curie, ou je veux dire sa faiblesse plutôt, son manque de moyens, son manque de personnel pour les grands défis, l'oblige à une certaine humilité. Mais dès qu'on met le pied là-dedans, on peut très bien facilement se laisser prendre à une logique de pouvoir et non plus de service, à voir les choses de manière humaine et organisationnelle et non plus théologale, et donc de passer à côté de la véritable mission d'une curie qui n'est pas une administration comme une autre. S'il y a une dimension administrative qui doit être faite avec compétence, avec sérieux, avec rigueur, il n'empêche que la mission dépasse infiniment l'administration. Et je pense que ce que l'Église a besoin et ce que la Curie requiert en urgence aussi, c'est véritablement un renouveau théologal, un renouveau spirituel profond. Et je pense que cette purification, elle passe d'abord par cette évangélisation de la Curie et ensuite, sans doute, par aussi une remise en perspective de la finalité de la mission propre de la Curie. Et la Curie est un instrument au service d'une fin, et la fin, c'est l'évangélisation du monde. Vraiment un travail très important à refaire de réorientation, peut-être moins de purification comme on l'imagine. Je pense que ces drames qu'on a vu apparaître, de vitiligo, de pédophilie, tout ça, sont en fait des symptômes d'une maladie plus profonde. Il faut s'attaquer à la cause et non pas simplement essayer de camoufler les symptômes ou même de les mettre en lumière. Ce ne sera pas suffisant pour guérir.
L'Église doit donc se réévangéliser de l'intérieur pour pouvoir évangéliser le monde. Dans ce domaine, quels sont les grands chantiers sur lesquels le futur pape devra travailler ?
On vit dans un monde marqué par la présomption d'une humanité qui croit se construire sans Dieu, dans un désespoir, une société dépressive. La modernité avait été marquée par la liberté et l'autonomie de l'homme. Ça conduit à une servitude. La postmodernité que l'on voit apparaître aujourd'hui est une postmodernité liquide, faite d'angoisse et de barbarie. L'Occident est fatigué, pour reprendre un mot de Nietzsche. Et donc, on se rend compte qu'il y a vraiment un terrible défi, que l'Église a la réponse. Il ne faut pas qu'elle se perde en débat liturgique, en débat idéologique, mais qu'elle ramène ce regard de foi. Et donc, l'annonce prophétique de la bonne nouvelle du salut me paraît véritablement la réponse la plus scandaleuse et la plus guérissante pour notre monde. Pour cela, je crois qu'il faut une Église qui soit simple et pauvre. Il y a un langage à trouver, il y a une forme à donner. Le monde d'aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres, et s'il écoute des maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Benoît XVI a eu l'audace de dire, en Allemagne aussi, que finalement, il était très très difficile, voire même impossible, pour des gens extérieurs à l'Église de faire l'expérience dans nos communautés ecclésiales de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Et il rappelait qu'il fallait des petites communautés où se vivent les amitiés, qui sont approfondies dans la fréquente adoration communautaire de Dieu et dans la charité fraternelle. Je pense qu'il va falloir revivre personnellement et communautairement ce témoignage des premiers chrétiens.
Le père Nicolas Butet, interrogé par Manuela Affigi. Deux cardinaux électeurs, je vous le rappelle, un Indonésien et un Britannique, ne participeront pas au conclave. Le premier pour raison de santé, le deuxième pour avoir été mis en cause dans une affaire d'abus sexuel. Parmi les électeurs, 67 ont été créés par Benoît XVI. Les Européens sont les plus nombreux avec 60 représentants, dont 28 Italiens. C'est l'Amérique latine qui occupe la deuxième place avec 19 cardinaux. Le plus jeune est un Indien, Basilios Totunkal, âgé de 53 ans. Le plus âgé, un Allemand, Walter Kasper, qui a atteint 80 ans le 5 mars. L'athéisme actuel, qui se contente de juger la foi et les rites comme insignifiants, est particulièrement dangereux et destructeur. Lors d'une audience générale, Benoît XVI avait mis en garde contre le fait de réduire l'homme à sa dimension horizontale, comme l'ont fait les totalitarismes du XXe siècle. À notre époque, avait expliqué Benoît XVI, on constate un phénomène particulièrement dangereux pour la foi. Une forme d'athéisme que l'on peut définir comme pratique, où les vérités de la foi ou les rites religieux ne sont pas niés, mais considérés simplement comme insignifiant pour la vie de tous les jours, détaché de la vie inutile. On écoute Benoît XVI.
Si Dieu perd sa place centrale, l'homme lui aussi perd sa juste place dans la création et dans ses relations. C'est pourquoi l'Église ne cesse d'affirmer inlassablement la vérité sur l'homme et sur son destin. Avec elle, nous sommes appelés à répondre avec courage à l'athéisme, au scepticisme et à l'indifférence, en nous appuyant sur trois réalités, le monde, l'homme et la foi. Le monde est habité par une intelligence créatrice. L'homme porte en lui-même une soif de l'infini qui le pousse à chercher quelqu'un, Dieu, qui seul peut combler son vide. La vie de foi conduit pour sa part à la connaissance de Dieu. La foi chrétienne ne peut pas être réduite à un simple système de croyances, de valeurs. Le christianisme est avant tout l'événement de l'amour, l'accueil de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. C'est pourquoi les chrétiens et les communautés chrétiennes doivent avant tout regarder le Christ et le faire connaître, lui qui est le vrai chemin, qui conduit à Dieu.
Sans la contribution des femmes, l'histoire du christianisme aurait été bien différente. C'est Benoît XVI qui l'a affirmé il y a quelques années pendant une audience générale. Le pape émérite a plus d'une fois rendu hommage au génie féminin et à son impact sur l'Église et la société. Nazareth et Magdala, Assise et Sienne, Avila et Lisieux, la liste des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église est longue. Jean-Baptiste Cocagne.
Marie de Nazareth, bénie entre toutes les femmes. Marie-Madeleine, rachetée par un amour plus grand que son passé. Claire d'Assise, sœur spirituelle de François, le Poverello. Catherine de Sienne, l'analphabète qui a su parler au roi et encourager les papes. Thérèse d'Avila, la grande contemplative et la petite Thérèse de Lisieux. On peut se demander à quoi l'Église aurait ressemblé sans elle et sans les milliers de figures extraordinaires de femmes, de saintes connues ou anonymes qui ont témoigné depuis 2000 ans.
La storia del cristianesimo avrebbe avuto uno sviluppo ben diverso.
L'histoire du christianisme aurait connu une évolution bien différente sans l'apport généreux des femmes, affirmait Benoît XVI lors de l'audience générale du 14 février 2007. Et en citant Jean-Paul II, il ajoutait « L'Église rend grâce pour toutes les manifestations du génie féminin au cours de l'histoire, parmi les peuples et les nations. » Femmes, mères, laïques ou religieuses. En 2010, Benoît XVI a consacré des catéchèses inoubliables aux figures féminines du Moyen-Âge chrétien. Et il s'est indigné face aux courants culturels et politiques qui veulent éliminer ou brouiller les différences sexuelles inscrites dans la nature humaine. Il s'est insurgé contre les lieux et les cultures où les femmes sont discriminées ou sous-estimées, parfois au nom de la religion ou de pression familiale, sociale et culturelle. Il a dénoncé les mauvais traitements infligés aux femmes, leur exploitation par la publicité ou l'industrie de la consommation et du divertissement. Le 8 mars 2009, Benoît XVI a invité les chrétiens et l'Église à se pencher sur la condition des femmes et à s'engager pour que toujours et partout, toutes les femmes puissent vivre et manifester pleinement leurs capacités dans le respect de leur dignité.
Et à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé les violences intolérables encore subies par les femmes dans plusieurs pays du monde. En Afrique du Nord, par exemple, elles ne sont pas épargnées. À l'occasion d'un congrès qui s'est tenu à Rome, notre confrère de la rédaction italienne Davide Maggiore a interrogé une journaliste tunisienne, Siem Ben Cedrine, qui milite en faveur des droits de l'homme. Elle parle du rôle que les femmes pourraient jouer en faveur de la stabilité politique de son pays, la Tunisie.
Les femmes ont été à tous les niveaux de la lutte pour la chute de la dictature. D'abord dans la rue, pour les plus jeunes, on a des femmes martyrs, des femmes qui sont tombées sous les balles de la police pendant la Révolution. On a des femmes qui ont des enfants qu'ils ont envoyés à la mort pratiquement pour défendre leur pays. On a des femmes qui ont été dans les différents théâtres de la lutte, que ce soit le théâtre syndical, le théâtre des médias. Elles ont été partout. Et si vous voyez un petit peu les images de la Révolution, vous allez voir que la rue était mixte. Elle était hommes et femmes. Il n'y avait pas que des hommes.
Maintenant, du point de vue institutionnel, les femmes ont une représentation importante dans le Parlement et dans les institutions tunisiennes.
Les femmes au Parlement, grâce à la loi sur la parité électorale, elles sont relativement présentes, avec plus de 29% du Parlement qui sont des femmes. Mais pour nous, c'est insuffisant, bien sûr. Par contre, au gouvernement, elles sont très faibles. Et ça, il y a une régression sur ce plan-là. Et dans les postes de responsabilité, elles ne sont pas très importantes. Et cette représentation, elle ne va pas de pair avec la place réelle de la femme dans la vie publique. Les femmes sont très actives à tous les échelons, y compris, bien sûr, à l'échelle sociale, syndicale, la vie associative, dans la société civile, dans les partis. Mais malheureusement, encore, les mentalités patriarcales font que, quels que soient les partis, que ce soit les partis islamistes ou les partis progressistes, tous donnent un rôle inférieur aux femmes. Dans ce conflit où l'État est devenu un gâteau qu'on partage, eh bien, les femmes ne sont pas partie prenante. Il n'y a que les hommes qui se disputent, les ministères.
De quelle façon vous regardez comme femme, mais surtout comme peuple tunisien, à l'Europe dans le cadre de cette lutte pour les droits qui sont les droits de tout le peuple ?
Durant la dictature, l'Europe a longtemps soutenu nos dictateurs. Après la Révolution, ils ont eu un regard attentiste, wait and see, à l'égard de la Révolution dans notre pays. Et dans cette période de transition qui est la plus difficile pour nous, parce qu'il s'agit justement d'extirper et de démanteler l'ancien régime et de créer le nouveau régime, avec des forces un peu obscurantistes qui sont dans le champ public. Dans cette période très très difficile, le soutien de l'Europe se fait rare. Vous savez, comme moi, que l'économie tunisienne est en crise, que nous passons par une période extrêmement difficile et que cette crise de l'emploi, du recul du pouvoir d'achat, se traduit aussi en inquiétude, progrès dans le champ public des forces archaïques comme les salafistes, parce qu'ils arrivent à recruter dans ces milieux pauvres, dans ces milieux marginalisés, et que les solutions politiques passent aussi par l'économique. Donc le soutien économique est quelque chose que peut faire l'Europe. Le fait aussi d'accepter dans les 10 prochaines années des migrants tunisiens sur le sol européen, ça peut aider aussi à décongestionner le chômage. Et pour vous, c'est rien du tout, parce que c'est quelques milliers, alors que pour nous, ça peut aider énormément dans cette période difficile que nous allons traverser.
La journaliste et militante tunisienne Siem Ben Cedrine. Et devant la 22e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, l'observateur permanent du Saint-Siège a rappelé que les femmes étaient les principales victimes de l'esclavage, de la prostitution des mineurs et de la pédopornographie, des fléaux qui sont en augmentation aujourd'hui dans le monde. Monseigneur Silvano Tomasi a relevé que 118 pays du monde étaient touchés par le phénomène dramatique du trafic des êtres humains. 60% des victimes sont des femmes, tandis que le nombre des mineurs concernés est passé en l'espace de 3 ans de 20 à 27%. Le chiffre d'affaires atteint des milliards de dollars. Le Saint-Siège encourage la mise en place de législations adéquates et un renforcement de la coopération internationale. Mais il est également nécessaire d'agir contre les clients des trafiquants et de s'attaquer aux racines du mal, la pauvreté et le contexte culturel qui engendre de tels comportements. Et au Kenya, après le scrutin du 4 mars, les évêques ont lancé un appel au calme, au respect de la loi et de la vie humaine. En 2007, souvenez-vous, les élections avaient débouché sur un bain de sang. Les évêques souhaitent que le Kenya puisse entreprendre un parcours positif en s'efforçant de guérir les profondes blessures de la division, de construire l'unité nationale et des institutions susceptibles de garantir un avenir serein. Les catholiques sont appelés à accompagner cette période de leur prière. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur vos tablettes et smartphones. Vous pourrez y suivre l'actualité du pape en direct et en vidéo. Bonne fin de semaine à tous.